visite de l'inspecteur. Un scénario inédit de René Goscinny. Décor de salle de bain. Gros plan de Nicolas de face, comme s'il se trouvait devant son miroir, en train de se peigner avec beaucoup de soin, tirant la langue et luttant sans succès contre un épi rebelle. Dans un décor de salle à manger, Alceste est en train de manger une grosse tartine, tandis que sa mère lui noue sa cravate tout en époussetant les miettes et en faisant à son fils des tas de recommandations par geste. Décor de chambre d'enfant studieux. Tableau noir couvert de chiffres, globe terrestre. Agnan est en train d'essuyer ses lunettes. Quand il a eu fini, il remet ses lunettes et commence à essuyer ses livres. Il est impeccablement habillé. Dans sa chambre, la maîtresse, devant sa coiffeuse, se maquille avec un soin manifestement inhabituel. Sur la table de la coiffeuse, quelques livres et cahiers de cours. Dans un décor de salle à manger, l'inspecteur, homme sévère et décoré, est assis à table. Une bonne âgée, attentive à ses moindres désirs, lui sert le café du petit déjeuner. L'inspecteur est pointilleux. Il choisit avec soin un sucre et une tartine. Il essuie sa tasse avant que sa bonne ne lui verse le café. La bonne.
Vous rentrez déjeuner, monsieur l'inspecteur ?
L'inspecteur. Oui, je vais tout juste faire une petite inspection surprise à l'école du quartier. Décor. La rue devant l'école avec au premier plan la grille d'entrée à deux battants de l'école. On voit arriver le bouillon. Il est devant la grille, pousse le battant de droite qui émet un léger grincement. Il entre, ainsi que la maîtresse qui le suivait de peu. Le bouillon réapparaît avec une burette et huile les gonds du battant de droite. Il redisparaît. Le directeur arrive, pousse le battant de gauche qui émet un léger grincement. Le bouillon réapparaît et huile les gonds du battant de gauche et pris par son zèle, huile la serrure et le bouton de porte. Il disparaît à l'intérieur. On entend son dialogue avec le directeur. Le bouillon.
Les grilles grinçaient, et pas que les grilles d'ailleurs. La serrure émettait un grincement désagréable, monsieur le directeur.
Le directeur. Très bien, monsieur Dubon, très bien. Le directeur monte le perron suivi du bouillon, dont les chaussures grincent horriblement à chaque marche.
Le bouillon. C'est vrai, monsieur le directeur, on ne se rend plus compte, mais la grille, ça fait longtemps que... Et personne n'y pense, le directeur.
Très bien, monsieur Dubon, très bien. Ils disparaissent tous deux dans le bâtiment de l'école. Dans la rue, on voit arriver les enfants par groupe. Très excités, nerveux, parlant entre eux. Dans le tas, on reconnaît Nicolas et Alceste qui mangent sa tartine. Ils entrent. Un gosse, juste avant d'entrer, tend la main et subtilise le béret d'un copain déjà à l'intérieur. Il reçoit immédiatement le coup de poing du copain en question. Une superbe voiture s'arrête. Geoffroy en jaillit. Voix des gosses où l'on entendra des commentaires du genre.
Il paraît qu'il est vache.
C'est sûr qu'il vient aujourd'hui ?
Les grands m'ont dit qu'il est drôlement terrible.
Tiens, voilà Nicolas. Tu me passes un bout de ta tartine, Alceste ?
Réponse indistincte, mais hostile, la bouche pleine.
Tiens, voilà Geoffroy.
Sale chouchou d'Agnan. La cour de l'école. Tous les gosses courent, jouent et discutent par groupe. On voit à l'arrière-plan un grand qui poursuit un petit. Puis le grand qui revient poursuivi par 5 petits. Puis les 5 petits qui reviennent poursuivis par 2 grands qui fuient devant 10 petits. Plus loin, un gamin se fait gronder par un professeur qui lui fait le geste d'enlever son béret. Le petit obéit. D'autres enfants sont en train de se disputer. L'un arrache le béret d'un autre, le jette en l'air et le béret va atterrir sur la tête nue du petit en train de se faire gronder. Dans cette animation, un groupe, au milieu de la cour, composé par le directeur, la maîtresse et le bouillon, qui tient toujours à la main la burette d'huile pointée vers le haut pour qu'elle ne coule pas. La caméra s'approche du groupe et la conversation devient audible. Le directeur.
Visite impromptue de l'inspecteur. C'est pas qu'il soit sévère, mais il est assez pointilleux. Le moindre détail, le bouillon.
Oui, c'est comme la grille, par exemple. Le directeur qui se tourne vers la maîtresse. Je suis un peu inquiet, je l'avoue, au sujet de vos élèves, mademoiselle.
La maîtresse. Non, non, monsieur le directeur, je leur ai fait beaucoup de recommandations au sujet de leur tenue, par exemple.
Un groupe de gosses, parmi lesquels Nicolas et Alceste, mangeant sa tartine. Ils sont très propres et discutent au milieu des autres gosses qui courent. Un des gosses bouscule Alceste.
il lâche sa tartine qui glisse sur le devant de sa chemise avant de tomber par terre. Alceste, pas content, commence à essuyer avec sa manche le beurre et la confiture qui se trouvent sur sa chemise. Il voit qu'il a mieux à faire et se baisse pour ramasser sa tartine, mais la maîtresse affolée surgit et l'entraîne par le bras. Le directeur et le bouillon regardent leur montre en même temps. Le bouillon, automatiquement, règle sa montre sur celle du directeur. Le directeur. 9h moins le quart. Le bouillon. La cloche. Nous suivons la marche du bouillon vers la cloche parmi les enfants. Il marche sur la tartine abandonnée d'Alceste. Il glisse sans tomber, ce qui le fait presser sur la burette et fait gicler un peu d'huile qui retombe dans sa main. Il arrive devant la chaîne de la cloche, change sa burette de main pour pouvoir sonner et la chaîne glisse entre ses doigts. Il essuie sa main et sonne la cloche. Son de la cloche. Un silence relatif se fait. Et les enfants courent se mettre en rang. Alceste.
Qui a marché sur mon sandwich ?
Nicolas.
C'est le bouillon.
Les enfants se rendent dans leur classe, les grands d'abord. La première file avance et, comme cela arrive habituellement, les deux derniers de la file démarrent avec un peu de retard par rapport aux autres et doivent courir pour rattraper leurs camarades. Le même fait se produit pour chacune des classes. Celle de Nicolas est la dernière à partir. Le couloir à l'intérieur de l'école avec les porte-manteaux. Les gosses arrivent très bruyants et accrochent leurs vêtements aux porte-manteaux dans un brouhaha croissant. La maîtresse apparaît et frappe dans ses mains pour obtenir le silence. La maîtresse.
Un peu de silence, je vous prie. Vous savez pourtant que monsieur l'inspecteur...
voit des enfants.
Oh oui, l'inspecteur.
Il est déjà là.
On sait pas.
Mais non, il n'est pas là, imbécile. Chut.
Le silence se fait et ils disparaissent par la porte de la classe qui se referme silencieusement sur le dernier des enfants. Le couloir reste désert un instant et on remarque qu'un porte-manteau est resté vide. On entend un bruit de pas précipité qui approche et Clotaire apparaît tout essoufflé. Il dépose ses vêtements sur le porte-manteau resté libre, sans beaucoup de soin, et court vers la classe, ouvre la porte, entre et la referme avec fracas. Ses vêtements tombent. Nous sommes dans la classe. Les élèves se placent avec pas mal de désordre et la maîtresse frappe avec sa règle sur le bureau pour obtenir le silence. Une règle tordue par un trop long usage. La maîtresse.
Allons, du calme, dépêchez-vous, Nicolas, asseyez-vous. Compris, Nicolas ?
Parmi les élèves assis au premier banc se trouvent Nicolas, Alceste et puis à un autre banc, seul, Agnan, qui est assis très droit, les bras croisés sur le pupitre, dans la position de l'élève modèle. La maîtresse.
Comme vous le savez, bien entendu, s'il vous le demande, vous direz que vous ne le saviez pas, l'inspecteur d'académie doit venir. Quand il s'adressera à vous, vous répondrez « Oui, monsieur l'inspecteur, non, monsieur l'inspecteur, pour une fois, je vous demande d'être sage. »
Gros plan sur Agnan, vertueux. Agnan. « Mais je suis sage. » Voix off des enfants.
« Sale chouchou, Agnan, chouchou, chouchou Agnan. »
La maîtresse frappe sur le bureau avec sa règle en métal. La maîtresse.
« Silence ! Bien sûr, vous ne parlerez que si on vous interroge. Et surtout, surtout, vous ne rirez uniquement que si je ris moi-même. C'est bien entendu. Vous ne rirez que quand je rirai moi-même. Clotaire, répétez ce que je viens de dire. »
Clotaire se lève, hésite un moment, l'air abruti. Clotaire.
« Il faut pas rire, sauf si on nous interroge. »
Rire des enfants. La maîtresse frappe à nouveau avec sa règle sur son pupitre.
Clotaire au piqué.
Aux élèves.
Ne riez pas si vous ne voulez pas lui tenir compagnie.
À Clotaire.
Monsieur l'inspecteur sera sûrement très content de vous voir au piqué.
Clotaire, debout à son banc, se tenant à son pupitre, braillant. Clotaire.
Je veux pas y aller. Si l'inspecteur me voit au piqué, il va m'interroger. Et puis je me rappelle plus ma leçon, je me rappelle de rien. Je veux pas y aller.
La maîtresse.
Bon, asseyez-vous et que je ne vous entende plus.
Tout est calme. La maîtresse range nerveusement ses affaires sur son bureau. Elle regarde autour d'elle, jette un coup d'œil au tableau noir. La maîtresse.
La craie ? Oui, il y en a.
Tout à coup, le regard de la maîtresse se fige. Nous voyons Alceste qui regarde d'un air étonné la maîtresse, et puis nous voyons la tache de confiture et de beurre sur sa chemise et sa cravate. La maîtresse, préoccupée, se lève et s'approche du banc d'Alceste et montre sa chemise. La maîtresse.
Alceste, ta chemise. Non, non, ça ne va pas. Tiens, Joachim, viens ici à la place d'Alceste et toi, Alceste, va à la place de Joachim.
Alceste se lève, Joachim se lève au fond de la salle et proteste.
Joachim, je veux pas être devant, moi, je me rappelle de rien.
La maîtresse, oui, bon, ça va, du calme. Mexan, viens prendre la place d'Alceste.
Mexan s'avance et au moment où il va s'asseoir à la place d'Alceste, la maîtresse regarde avec stupeur son horrible cravate bon marché de grande personne qu'il arbore fièrement.
La maîtresse, non, 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 Mexan, à ta place, Rufus, viens ici.
La voix des gosses.
« Alceste, ma place !»« Mais non, c'est la maîtresse qui a dit !»
La maîtresse, « Taisez-vous ! Mexan, retournez à votre place. Alceste, veux-tu laisser la place à Mexan ? Et va à la place de Rufus qui vient ici à ta place, à côté de Nicolas. »
Va et vient confus dans la classe, petit croche-pied en traître. Voix des enfants.
« Tu vas voir à la récré !»
Rufus s'est enfin assis à côté de Nicolas et il regarde son encrier. Il est affolé.
« Mademoiselle, j'ai pas d'encre !»
Voix des enfants.
Moi non plus. S'il nous fait une dictée, tu crois qu'il va nous faire une dictée? Moi, je m'en rappelle de rien, alors.
La maîtresse, tu n'as pas d'encre? Agnan, veux-tu remplir tous les encriers?
Voix des enfants. Toujours lui, sale chouchou. Tu vas voir à la récré.
Dehors, venant du bout de la rue, nous voyons arriver l'inspecteur, calme et sérieux, le long du trottoir. Il traverse par le passage clouté en regardant consciencieusement à droite et à gauche. Durant tout ce temps, on entend un brouhaha venant de l'école. À l'instant précis où l'inspecteur franchit la grille, silence total instantané. Agnan est en train de verser l'encre dans l'encrier de Rufus au premier plan. Chuchotement dramatique, voix étranglée.
« Le voilà !»
Agnan sursaute et répand de l'encre partout. En pleine panique, il continue à en verser et fait déborder l'encrier au grand désarroi de Nicolas et de Rufus qui ont de l'encre sur eux et sur leurs cahiers et leurs livres. La maîtresse bondit.
La maîtresse. « Qui a dit ça? C'est vous, Clotaire? Je vous ai vu !»
Clotaire. « Mais c'est vrai, je l'ai vu. Il est arrivé. »
Chuchotement nerveux et excité. Rufus pleure en montrant son cahier plein d'encre, tandis qu'Agnan, paralysé par la terreur, continue à verser de l'encre tout en se faisant invectiver par les enfants. La maîtresse lui prend la bouteille des mains. Le banc est plein d'encre.
La maîtresse. « Regardez-moi ce banc !»« Ah non, vraiment !»« Bon, nous allons mettre ce banc derrière. »
La plupart des gosses se lèvent. Nicolas et Rufus prennent le banc, le soulèvent maladroitement et lui font faire demi-tour. Au moment où Nicolas et Rufus ont retourné le banc et s'apprêtent à partir avec lui, la porte s'ouvre et l'inspecteur et le directeur entrent. La maîtresse,
debout !
Le directeur, assis. Les rares enfants qui n'étaient pas debout ont obéi à la maîtresse. Nicolas et Rufus s'assoient et se trouvent donc le dos tourné à l'inspecteur puisque leur banc se trouve à l'envers. L'inspecteur les regarde surpris et les montre du doigt en se tournant vers la maîtresse. L'inspecteur.
« Il s'assoit toujours comme ça ?»
La maîtresse. « C'est-à-dire l'encre, n'est-ce pas? Nous changions le banc de place. »
L'inspecteur fait un petit geste expressif de la main du genre « serre la vis ».
Dès leur plus jeune âge, il faut les habituer à une certaine discipline. Remettez ce banc en place. »
Tout le monde se lève. L'inspecteur les arrête du geste et désigne Nicolas et Rufus.
« Vous deux seulement. »
Pendant que Nicolas et Rufus obéissent, il continue son speech.
« Comme je le dis souvent, une bonne formation dès les premières années permet de favoriser le terrain pour de bonnes études secondaires, dans l'ordre et l'efficacité. Dans l'ordre et l'efficacité. »
Se tourne vers le directeur. L'inspecteur, majestueux, s'approche du banc de Nicolas et Rufus, s'appuie sur le banc des deux mains et leur parle avec un sourire engageant.
« Nous ne recherchons pas autre chose. »
Le directeur. « Mais oui, l'ordre et l'efficacité. » L'inspecteur retire ses mains du banc, les regarde, pousse un soupir et essuie ses mains avec son mouchoir. La caméra montre les enfants immobiles, mais inquiets. Un silence de mort. L'inspecteur.
« Et que faisions-nous avant que j'arrive ?»
Nicolas.
On changeait le banc.
L'inspecteur qui s'énerve.
Je ne vous parle pas de ce banc, ne parlons plus de ce banc. Et d'ailleurs, pourquoi le changiez-vous, ce banc ?
Rufus. À cause de l'encre. L'inspecteur se tournant vers la maîtresse avec un visage fermé.
Je vois que vous avez quelques ennuis avec la discipline.
Il fait son geste du poing de serrer la vis.
Il faut user d'un peu de psychologie élémentaire.
Il se tourne vers les enfants avec un large sourire cabotin.
« Mes enfants, je suis votre ami. Il ne faut pas avoir peur de moi. Je sais que vous aimez vous amuser, et moi aussi j'aime bien rire. D'ailleurs, tenez, connaissez-vous l'histoire des deux sourds ? Un sourd dit à l'autre, « Tu vas à la pêche ?» L'autre répond, « Non, je vais à la pêche. » Et le premier de rétorquer, « Ah bon, je croyais que tu allais à la pêche. »
L'inspecteur part d'un grand rire. Les enfants, se souvenant des recommandations de la maîtresse, ne rient pas, bien que quelques-uns luttent contre l'envie de rire et gardent leurs bras croisés sur les bancs. L'inspecteur, voyant que personne ne réagit à son histoire, tousse assez décontenancé.
« Bon, assez ri au travail. Que faisiez-vous avant que j'arrive ? À part changer les bancs, bien sûr. »
La maîtresse rit. Il y a un très léger instant d'hésitation et un éclat de rire général des enfants. L'inspecteur se retourne surpris. La maîtresse.
« Nous faisions un peu d'arithmétique, monsieur l'inspecteur. »
L'inspecteur. « Ah, l'arithmétique. »
Le directeur.
« Ah, l'arithmétique. »
L'inspecteur.
« Eh bien, nous allons résoudre un petit problème tous ensemble. »
Il joint les mains, se concentre et se lance.
« Problème. Une poule, appelons-la Jeanne, un fermier, Pierre, et des œufs. Vous aimez bien les œufs, n'est-ce pas ?»
Silence de mort, et nous voyons la maîtresse qui fait signe à la classe. Maîtresse.
« Oui, monsieur l'inspecteur. »
Tous les enfants.
« Oui, monsieur l'inspecteur. »
L'inspecteur jette un coup d'œil un peu ahuri à la maîtresse. L'inspecteur.
« Oui, bon, bien. Énoncé. Jeanne, la poule, pond deux œufs toutes les heures. C'est une très brave bête pour le... »
Le directeur, avec un fin sourire. « Une très brave bête !» Pendant qu'il parle, l'inspecteur se tourne vers le tableau, prend un morceau de craie et écrit « Jeanne, 2 points, 2, 1 heure. Pierre, 2 points, 12, 6 heures. » L'inspecteur.
« Si Pierre, le fermier, avait 12 poules en plus, je dis bien en plus, appelons-les Georgette, Marie, Micheline, Pierrette, Paulette, Josette, etc. Aussi bonne pondeuse que, il regarde le tableau, que Jeanne, combien d'œufs Pierre aurait-il au bout de 6 heures ? Je répète, une poule pond 2 œufs toutes les heures. Si le fermier avait 12 poules en plus, aussi bonne pondeuse que la première, combien aurait-il d'œufs au bout de 6 heures ?
La maîtresse pouffe et on entend aussitôt après pouffer tous les enfants. L'inspecteur jette un mauvais regard sur la classe et il écrit au tableau.
Explication. « Solution. Opération. »
L'inspecteur.
« Qui va nous donner la solution de ce problème ?»
Il cherche. La maîtresse fait semblant de chercher. La maîtresse désigne Agnan du doigt en même temps que l'inspecteur désigne le fond de la classe. La maîtresse.
« Vous, Agnan. »
L'inspecteur.
« Vous, là-bas. »
Agnan, qui s'était levé tout content, se rassoit déçu, tandis qu'Alceste vient au tableau en avalant ce qu'il est en train de mâcher et en essuyant ses mains à son pantalon. L'inspecteur regarde, un peu interloqué, la chemise tachée d'Alceste. L'inspecteur.
« Eh bien, allez-y, mon garçon !»
Il se tourne vers les autres élèves.
« Que ceci ne vous empêche pas !»
Il se tourne vers Alceste, qui regarde ses camarades d'un air implorant. L'inspecteur.
« Regardez ce tableau !» aux élèves. « Que ceci ne vous empêche pas de chercher la solution. Je vous préviens, il y a un piège. »
Agnan.
« 156. »
Broa des gosses.
« 156. »« 156. »«
156. »«
156. »« 156. »« 156. »
L'inspecteur sursaute. Alceste aussitôt écrit « 156. » L'inspecteur jette un regard mauvais à Agnan.
« Je ne vous ai pas interrogé. »
La maîtresse. « Monsieur l'inspecteur ne vous a pas interrogé, Agnan. Vous ne devez répondre que si monsieur l'inspecteur vous interroge. » Le directeur hoche la tête en levant les yeux au plafond.
« Évidemment, la solution est facile. Vous l'aviez trouvée, n'est-ce pas ?»
Il désigne Rufus d'un doigt péremptoire. « Rufus. »«
156. »
L'inspecteur.
« Bien sûr. Mais ce que je veux,
c'est l'explication. » Il se tourne vers Alceste.
« Allons-y, jeune homme. »
Alceste, que nous voyons de dos, commence à écrire dans la colonne d'explication au bas de laquelle il avait écrit « 156 ». ».« Il écrit des tas de choses que nous ne voyons pas, puis il efface. Il recommence, puis il efface. 3 fois. L'inspecteur.
Alors, ça y est ?
Alceste se retourne et dit bêtement.
156.
L'inspecteur excédé. Bon, retournez à votre place. Vous n'êtes vraiment que des perroquets. L'explication qu'il aurait fallu me donner, la voilà.
Il écrit en parlant.
Une poule pond 2 œufs toutes les heures. Bon, donc, en 6 heures, une poule pond 2 œufs multipliés par 6 heures égale 12 œufs. Si Pierre a 12 poules en plus, je dis bien de plus. Et c'est là le piège.
L'inspecteur se tourne l'air rusé vers le directeur qui sourit l'air rusé. L'inspecteur.
Si Pierre a 12 poules en plus, qui pondent comme il aurait 12 multiplié par 12 égale...
Il désigne Joachim. Joachim.
156.
L'inspecteur soupire.
Égale 144. Et 144 plus les 12 œufs de Jean égale 156. Voilà.
Le directeur.
C'est évident.
L'inspecteur.
Maintenant, pour voir si vous avez bien assimilé le problème. Si Pierre avait 12 poules en tout au lieu de 13, c'est-à-dire une poule de moins, combien aurait-il d'œufs ?
Il désigne Eudes.
Vous !
155.
Agnan triomphal.
144.
L'inspecteur excédé se passe la main sur la bouche, laissant une petite trace de craie. L'inspecteur à Agnan.
Je sais que vous savez. Bon, nous allons passer à un autre genre d'exercice.
Il se tourne vers la maîtresse.
Qu'avez-vous d'autre au programme ce matin ?
La maîtresse. Nous avons les fables de La Fontaine, monsieur l'inspecteur.
Ah, très bien, les fables. Très bien, La Fontaine. Ah, La Fontaine.
Le directeur. Là, La Fontaine. Il hoche la tête d'un air entendu. L'inspecteur.
Et quelle fable ?
La maîtresse. Le corbeau et le renard.
L'inspecteur. Parfait. Parfait ! Une très belle fable qui comporte une morale très intéressante. Je pense que vous avez bien compris ce que La Fontaine a voulu dire avec cette fable. Voici un corbeau, personnage fat, tenant en son bec un fromage, un succulent fromage, un roquefort ou un camembert, par exemple. Vous aimez bien le roquefort et le camembert, je pense.
L'inspecteur sourit et lève les bras comme pour faire taire la classe. Il laisse son geste en suspens et son sourire s'efface, car un silence total répond à sa question. L'inspecteur.
Voyons. Qui peut nous réciter le corbeau et le renard ?
La maîtresse fait semblant de chercher à nouveau et désigne Agnan. La maîtresse.
Vous, Agnan ?
Agnan se lève très vite, tout content, se place devant le tableau noir après avoir décroisé les bras de sa poitrine pour les croiser dans son dos et commence aussitôt. Agnan.
Maître corbeau.
L'inspecteur l'arrête d'un geste sec. Il prend un petit air futé.
« Non, non, non. Attendez. Vous, là-bas. »
L'inspecteur, vu de face, a montré du doigt et on entend off un immense braillement. Nous voyons de face Clotaire debout à son banc, en train de pleurer. L'inspecteur, ahuri, qui voit tous ses effets ratés, se tourne vers la maîtresse. Le braillement continue et n'arrêtera plus, constituant un bruit de fond constant. L'inspecteur.
« Qu'est-ce qu'il a ?»
La maîtresse.
« Il est très timide. »
L'inspecteur hochant la tête d'un air entendu.
« Ah, les timides !»
La maîtresse.
« Peut-être qu'Agnan ?»
Agnan.
« Maître Corbeau ?»
L'inspecteur faisant un geste agacé à Agnan pour lui imposer le silence.
« Non, attendez. Vous, mon petit, comment vous appelez-vous »
« Nicolas, monsieur l'inspecteur. »
« Eh bien, Nicolas, récitez-nous la fable. »
Nicolas commence un peu hésitant en tortillant le coin de son tablier.
Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un roquefort. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui dit « Vous me semblez bien fort. Si votre... »
« Un roquefort ? Pourquoi un roquefort ? Ah oui, je vois, vous apprenez comme des perroquets. Et comme vous apprenez comme des perroquets, vous ne réfléchissez pas. » Pour apprendre quelque chose intelligemment, on doit comprendre ce que sous-entend l'auteur. Voyons, votre camarade m'a parlé d'un roquefort. Nous allons en discuter tous ensemble. Allons, n'ayez pas peur.
Brouhaha.
Un peu de silence. Vous, par exemple.
Il désigne Alceste, qui avait la bouche pleine et qui avale.
Votre ami Colin. Rires étouffés. Inspecteur, un peu de silence. Votre ami Colin a parlé d'un roquefort. Il a dit ça parce que tout à l'heure, il m'a entendu parler d'un roquefort, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il aurait dû dire?
Alceste. Un camembert?
L'inspecteur qui s'énerve sérieusement et passe la main dans ses cheveux, ce qui nuit à la stricte ordonnance de sa coiffure. Mais non, pas un camembert!
Brouhaha dans lequel on entend Brie, Cantal, Petit Suisse,
Reblochon, Reblochon toi-même, tu vas voir à la récré, Livaro, Gruyère, Pont-l'Évêque.
Le brouhaha continue, l'inspecteur en plein désarroi se tourne vers Agnan qui va se déclencher comme une mécanique.
Bon, vous, Agnan.
Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. « Eh, bonjour, monsieur du Corbeau, comme vous êtes joli, comme vous me semblez beau. Si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des autres. »
Agnan va continuer imperturbablement la fable qu'il connaît à merveille. Au besoin, il la recommencera une fois arrivé au bout. Sans hésitation et aussitôt, il obéira aux indications de l'inspecteur et reprendra la fable à l'endroit demandé. L'inspecteur, à mesure que la fable se déroule, la commente pour bien la faire assimiler aux enfants au milieu du brouhaha et de Clotaire qui pleure. La maîtresse a bien envie de taper avec la règle sur le pupitre, mais elle hésite. L'inspecteur.
Un fromage, vous avez entendu, un fromage. N'importe quel fromage. La Fontaine n'a pas précisé, d'ailleurs c'était inutile.
Vers Clotaire dont les pleurs l'agacent.
Vous là-bas, taisez-vous. D'ailleurs écoutez, allez vous calmer dehors.
Clotaire sort en pleurant et reste derrière la porte, d'où on l'entendra toujours pleurer.
L'inspecteur. Si votre plumage, revenons à plumage.
L'inspecteur fait un signe à Agnan qui, imperturbable et monocorde, revient au mot plumage et redémarre la fable de là.
L'inspecteur. Vous ! Il désigne Nicolas. Qu'a voulu dire La Fontaine en parlant de plumage ?
Nicolas. N'importe quel plumage.
Voix de gosse.
N'importe quel fromage.
L'inspecteur, affreusement énervé au milieu du brouhaha rythmé par la récitation d'Agnan. Mais non, pas n'importe quel fromage. Le fromage du corbeau, que le corbeau tenait dans son bec, avec son bec à lui, son plumage à lui, son costume, son apparence.
Il s'essuie le front avec son mouchoir et comme celui-ci a servi à essuyer ses mains pleines d'encre, cela laisse une traînée noire sur son front. Il fait un signe à Agnan qui est devenu une machine pour lui, une machine qui obéit.
Ramage. Repartez à ramage. Pourquoi le renard flatte-t-il notre corbeau? Pourquoi lui dit-il « Vous avez le plus beau plumage, un bel habit, vous êtes beau. Que possède le corbeau que le renard voudrait avoir ?»
Le plumage.
Le ramage? Le phénix? Le bec? Un reblochon?
Mais non, quelque chose que le renard qui est en bas n'a pas.
Il voudrait voler.
L'inspecteur hurlant de joie. Oui, oui, oui. Qui a dit ça? Très bien. Il voudrait voler. Et il voudrait voler quoi?
Nicolas se lève, tout content et fier. Il voudrait voler plus haut que le corbeau.
L'inspecteur se passe la main sur la figure. Il se concentre pour ne pas exploser.
Le directeur, à son tour, entre en jeu excédé.
Le directeur. Mais non, le fromage, il s'agit du fromage. Écoutez, nous allons reprendre depuis le début et gare au...
Mais l'inspecteur en a assez. Il abandonne. Il ne pense qu'à la fuite. Il arrête le directeur du geste et se tourne vers la maîtresse. L'inspecteur.
Mais non, très bien, bravo mademoiselle. Je pense que vous les tenez.
Geste expressif du poing.
Très bien, ils sont très éveillés, oui, très bien. Ne vous dérangez pas, continuez comme si je n'étais pas venu.
L'inspecteur serre la main de la maîtresse et, suivi du directeur, va sortir de la classe. La maîtresse donne enfin un grand coup de règle sur son pupitre, ce qui fait sursauter l'inspecteur qui a les nerfs ébranlés. La maîtresse.
Debout !
Le silence se fait total, y compris en ce qui concerne les pleurs de Clotaire. L'inspecteur et le directeur sortent et croisent Clotaire qui entre avec un large sourire sur son visage. À la porte de l'école, le silence continue. Sur le perron, l'inspecteur parle avec le directeur et fait plusieurs fois le geste de serrer la vis, imité par le directeur. L'inspecteur salue le directeur et s'en va, seul, vers la grille qui lui glisse entre les doigts, s'essuie la main avec son mouchoir, ouvre la grille et sort dans un grand silence, s'essuyant à nouveau le front avec son mouchoir.
Et à mesure que l'inspecteur s'éloigne dans la rue, le vacarme venant de l'école commence, grandit et devient bientôt tonitruant.
Vous venez d'entendre La visite de l'inspecteur, un scénario inédit de René Goscinny, lu par Laurent Stocker de la Comédie Française. Prise de son, montage et mixage, Pierrick Charles, Kevin Delcourt et Claire Levasseur. Conseillère littéraire, Caroline Oisana. Assistante à la réalisation, Louise Loubrieux. Une réalisation de Blandine Masson et Baptiste Guiton.